La Voix des Livres, votre émission de lecture,
présentée par Jocide,
sur Radio U.
Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Quand le soleil se coucha, il évoqua, afin de se redonner du courage, le jour où, dans une taverne de Casablanca, il avait joué à la main de fer avec un grand nègre originaire de Cienfuegos et qui était le type le plus fort des docks. Ils étaient restés toute la journée et toute la nuit, les coudes plantés sur une marque à la craie tracée sur la table, les avant-bras dressés, leurs deux mains imbriquées l'une dans l'autre. Chacun d'eux devait faire plier le bras de l'autre et aplatir sa main sur la table. Tout le monde pariait à qui mieux. Les allées et venues ne cessaient pas. À la lumière des lampes à pétrole, ils regardaient tantôt le bras et la main du nègre, tantôt son visage. Au bout de 8 heures, on décida de relever les arbitres toutes les 4 heures afin qu'ils pussent dormir. Le sang perlait sous ses ongles. Il perlait de même sous les ongles du nègre. Ils se regardaient dans le blanc des yeux, ils regardaient aussi leurs mains et leurs bras. Les parieurs ne cessaient d'entrer et de sortir, s'asseyaient sur les hauts tabourets placés le long des murs et contemplaient les deux hommes. Sur les cloisons en bois de la salle qui était d'un bleu vif, les lampes dessinaient des ombres. L'ombre du nègre était immense. Elle se déplaçait quand la brise balançait les lampes. Toute la nuit, les chances se partagèrent. Lequel des deux l'emporterait ? On faisait boire du rhum au nègre, on lui mettait des cigarettes toutes allumées dans le bec. Après chaque coup de rhum, le nègre amorçait une poussée formidable. Une fois, il réussit à faire reculer le vieux, qui n'était pas le vieux en ce temps-là, mais bien Santiago el Campeón, de 5 centimètres au moins. Mais le vieux ramena sa main exactement à la même hauteur. À cet instant, il avait eu la certitude qu'il battrait le nègre. Et pourtant, c'était un beau gars et un grand sportif. Au petit jour, les parieurs insistaient pour qu'on déclarât match nul. L'arbitre, incertain, hochait la tête. Mais le vieux banda soudain toutes ses forces. Plus bas, toujours plus bas, il força la main du nègre à descendre vers la table jusqu'à ce qu'elle touchât le bois. Le duel avait commencé un dimanche matin, c'est le lundi matin qu'il se termina. La plupart des parieurs voulaient qu'on déclarât match nul. Ils avaient leur travail au dock, n'est-ce pas, chargés des sacs de sucre. Ou au charbonnage de la Havane. Sans cela, bien sûr, ils auraient tous préféré voir la fin de l'épreuve. Quoi qu'il en soit, lui, il avait emporté la décision, et avant que quiconque ait dû retourner au boulot. Longtemps après ce haut fait, on l'appelait encore le champion. Au printemps, il y eut la revanche. Toutefois, les paris étaient mous. Le vieux n'eut pas à se donner beaucoup de mal pour gagner. Sa première victoire avait brisé le moral du nègre de Cienfuegos. Par la suite, il lui arriva de disputer quelques épreuves, puis il s'arrêta tout à fait. Il décréta qu'il était capable de battre n'importe qui pour peu qu'il le désirât vraiment. À la longue, ce genre de lutte risquait de lui gâter la main droite, de la rendre impropre à la pêche. Il avait bien essayé d'entraîner sa main gauche, mais celle-ci s'était toujours conduite traîtreusement. Elle ne voulait jamais exécuter ses ordres. Impossible de se fier à une main gauche. « Le soleil va me la cuire un bon coup maintenant, pensa-t-il. Ça devrait suffire pour qu'elle ne me repique pas de crampes, à moins qu'elle n'ait trop froid pendant la nuit. Je me demande ce qui va se passer cette nuit. » Un avion qui se dirigeait vers Miami traversa le ciel. Son ombre sema la panique parmi les bancs de poissons volants. « Avec autant de poissons volants que ça, il devrait y avoir de la dorade, » dit-il. Il tira sur la ligne pour voir s'il n'y avait pas moyen de gagner un peu de longueur sur l'espadon. Rien à faire. Il s'arrêta quand la dureté et les vibrations l'avertirent que la ligne était au point de rompre. La barque avançait lentement. Il suivit des yeux l'avion jusqu'à ce qu'il le perdît de vue. « Ça doit faire un drôle d'effet d'aller en avion, » pensa-t-il. « À quoi ça ressemble-t-il, la mer vue de là-haut ? On doit voir le poisson à travers l'eau quand on ne vole pas à des altitudes. Ce que j'aimerais, moi, c'est de voler très lentement à 200 toises de hauteur et regarder le poisson par en dessus. Dans les bateaux à tortues, je me penchais dans les vergues et rien que de là, je voyais déjà très bien. Les dorades ont l'air plus vertes de haut. Et on peut voir aussi le banc tout entier en train de nager. Comment ça se fait-il que dans la courant qui est noire, tous les poissons rapides ont des dos rouges? Et pourquoi qu'ils ont presque toujours des rayures ou des taches? Si les dorades ont l'air vertes, c'est parce qu'elles sont jaunes, bien sûr, mais quand elles cherchent leur nourriture et qu'elles ont vraiment faim, elles ont sur les côtés des rayures rouges, comme les marlins. Qu'est-ce que c'est qui les fait sortir, ces rayures? La colère? Ou bien la vitesse? Peu avant la tombée de la nuit, alors qu'ils passaient à proximité d'un grand îlot d'herbes des sargasses qui se soulevait et ondulait dans la houle, comme si la mer faisait l'amour sous une couverture jaune, une dorade mordit à la petite ligne de l'arrière. Le vieux l'aperçut quand elle sauta. Elle se tordait, elle donnait de furieux coups de queue. C'était un vrai lingot d'or dans le soleil rasant. L'excès de sa peur multipliait ses acrobaties. Le vieux, accroupi, se porta comme il put jusqu'à l'arrière. De la main droite, il retenait la grande ligne. De la gauche, il ramena la dorade. Chaque fois qu'il gagnait un morceau de ligne, il plaquait dessus son pied nu. Affolé, plongeant et virevoltant sans cesse, le poisson d'or bruni tacheté de rouge toucha enfin la barque. Le vieux se pencha par-dessus bord et le fit basculer par-dessus la poupe. La dorade ouvrait et refermait la bouche convulsivement sur l'hameçon. Son long corps plat battait furieusement le plancher de la barque. Le vieux appliqua un coup de masse en travers de sa brillante tête dorée et après un long frémissement, elle retomba inerte. Le vieux décrocha l'hameçon, réappâta avec une autre sardine et lança la ligne. Puis il revint lentement vers l'avant. Il lava sa main gauche et l'essuya sur son pantalon, après quoi il fit passer la lourde ligne dans sa main gauche et lava sa main droite dans la mer. Il regardait le soleil pénétrer dans l'océan et l'inclinaison de la grande ligne. « Il n'a pas changé, » dit-il. Cependant, au mouvement de l'eau contre sa main, il constata que l'allure s'était nettement ralentie. « J'ai envie d'attacher les deux avions ensemble en travers de l'avant. Ça le ralentira pendant la nuit, » dit-il, « parce qu'on est bon pour passer la nuit, lui et moi. Je ferais mieux de ne pas vider la dorade tout de suite pour que le sang reste dans la viande, » pensa-t-il. « Je la viderai un peu plus tard, quand j'attacherai les avirons pour faire frein. C'est pas la peine d'embêter mon poisson maintenant. Le soleil se couche. Quand le soleil se couche, les poissons s'énervent, c'est connu. » Il sécha sa main dans le vent, puis la posa de nouveau sur la ligne et se laissant aller en avant se cala du mieux qu'il put contre le plat-bord. Le bateau, de la sorte, prenait sa bonne part du poids de la ligne tendue. « Je commence à connaître la musique, » pensa-t-il. Ce morceau-là, en tout cas. Faut pas oublier non plus qu'il a rien mangé depuis qu'il a pris l'hameçon, qu'il est énorme et qu'il a besoin de beaucoup de nourriture. Moi, j'ai mangé le bonito tout entier. Demain, je mangerai la dorade. Il l'appelait Dorado. Peut-être que je devrais en manger un bout quand je la viderai. Ça sera plus difficile à manger que le bonito, mais rien n'est facile à présent. Comment que ça va là-dessous, poisson ? Demanda-t-il tout haut. « Moi, ça va pas mal. Ma main gauche est bien mieux. J'ai des provisions pour la nuit et la journée de demain. »« Vas-y, tire le bateau, mon gars. » En réalité, il n'est pas si à son aise que ça. La corde, en labourant son dos, lui causait une douleur qui avait presque dépassé les limites de la conscience. Et c'était, pour ainsi dire, émoussé d'une façon assez inquiétante. « Bah, j'en ai vu d'autres, » pensa-t-il. « Ma main droite, elle n'a qu'une petite coupure. » Et l'autre main, il n'y a plus de crampes. Les jambes, il n'y a rien à dire. Et puis, question nourriture, je suis mieux partagée que lui. Il faisait nuit. En septembre, la nuit vient tout de suite après le coucher du soleil. Le vieux s'appuya contre le bois usé du plat-bord et se reposa un bon coup. Les premières étoiles se montraient. Il ne connaissait pas le nom de Rigel, mais il la voyait et savait que bientôt, toutes ses amies lointaines parsèmeraient le ciel. « Le poisson aussi est mon ami, » dit-il tout haut. « J'ai jamais vu un poisson pareil. J'ai jamais entendu parler d'un poisson comme ça. Pourtant, faut que je le tue. Heureusement qu'on n'est pas obligé de tuer les étoiles. » une supposition que tous les jours un homme devrait essayer de tuer la lune, pensa-t-il. Bon, la lune se débine, mais une supposition que tous les jours un homme devrait essayer de tuer le soleil. On a encore de la veine d'être comme on est, pensa-t-il. Il se sentit alors tout triste à l'idée que son grand poisson n'avait rien à manger. Sa volonté de le tuer ne s'en trouva d'ailleurs pas diminuée le moins du monde. Combien de gens pourront se nourrir dessus, se demanda-t-il. Mais est-ce que les gens méritent de le manger? Non, bien sûr. Il n'y a personne qui mérite de le manger. Digne et courageux comme il est, ce poisson-là. Je comprends pas bien tout ça, pensa-t-il. Mais c'est encore heureux qu'on ne soit pas obligé de faire la chasse au soleil, à la lune ou aux étoiles. On a assez de mal comme ça à vivre sur la mer et à tuer nos frères les poissons. Minute, pensa-t-il, faut que je réfléchisse un peu à ce freinage par les avirons. Ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages. Quand les avirons seront en place, le bateau perdra toute sa légèreté. À ce moment-là, si le poisson tente le coup, moi je risque de lâcher tellement de lignes qu'il est foutu de se sauver. Plus le bateau est léger, bien sûr, et plus on souffrira longtemps tous les deux. Mais grâce à ça, au moins, je suis tranquille. Ce poisson-là, il n'a pas encore donné toute sa vitesse. Et il peut aller bougrement vite, s'il veut. En tout cas, faut que je vide la dorade, autrement elle va se gâter. Et faut que j'en mange un peu, pour rester costaud. Bon, maintenant, je vais me reposer une heure. Ensuite, on verra si le poisson est toujours fidèle au poste, s'il est bien tranquille. Alors, ni une ni deux, je vais à l'arrière et au boulot. Je risque le tout. D'ici là, je verrai bien ce qu'il fabrique, s'il manigance quelque chose. Les avirons, c'est une riche idée, mais on arrive maintenant à un moment où faut ouvrir l'œil. Il est encore aussi le poisson qu'il peut l'être. Je l'ai bien vu. Il a l'hameçon dans le coin de la bouche et il garde la bouche fermée. C'est encore rien le mal que lui fait l'hameçon, mais la faim. Et puis de se débattre comme ça contre quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est ça, son vrai malheur. Repose-toi pour le moment, mon bonhomme, et laisse le poisson travailler jusqu'à ce que ça soit ton tour. Il se reposa pendant 2 heures, ou ce qui lui sembla 2 heures. Comme la lune se levait tard, il n'avait aucun moyen d'évaluer le temps. D'ailleurs, son repos était une chose très relative. Ses épaules supportaient toujours le poids de la ligne, mais il avait placé sa main gauche sur le plat-bord de l'avant et il confiait de plus en plus à la barque même l'effort de résister au poisson. Ça serait bien plus simple, bien sûr, si je pouvais attacher la ligne à quelque chose, pensa-t-il. Oui, mais voilà, suffirait d'un petit coup sec pour tout casser. Faut que j'amortisse la ligne avec mon dos. Faut que je sois à même à chaque instant de donner du fil avec les deux mains. « Mais, mon ami, sais-tu bien que tu n'as pas dormi du tout ?» dit-il tout haut. « Ça fait un demi-jour, une nuit, et puis encore un jour que ça dure, et t'as pas fermé l'œil. S'il continue à tirer tranquillement comme ça, faut t'arranger pour roupir un peu. À force de ne pas dormir, on risque de ne plus avoir la tête assez claire. « J'ai la tête tout de ce qu'il y a de clair, pensa-t-il, trop clair même. Clair comme les étoiles qui sont mes petites sœurs. » Mais faut tout de même que je dorme. Les étoiles s'adorent, la lune aussi. Et le soleil alors? Même l'océan, quelquefois, il dort, les jours où il n'y a pas de courant et où c'est le calme plat. Rappelle-toi qu'il faut que tu dormes, pensa-t-il. Force-toi à dormir et trouve un truc quelconque pour pas avoir de surprise avec les lignes. Pour l'instant, va à l'arrière, file ta dorade. Avec ce besoin de dormir que t'as, ça ne serait pas prudent d'installer les rames. « Je pourrais bien me passer de dormir, se dit-il, mais vraiment, ça serait trop dangereux. » Se traînant sur les mains et les genoux, attentif à ne donner de secousse à la ligne, il se fraya un chemin jusqu'à la poupe. « Peut-être bien qu'il est à moitié endormi, lui aussi, » songea-t-il. « Mais ça fait pas mon affaire. Faut qu'il tire jusqu'à ce qu'il en crève. » Arrivé à destination, il prit la ligne dans sa main gauche. Avec la droite, il tira son couteau de la gaine. Les étoiles donnaient toute leur clarté. Le vieux voyait très nettement la dorade. Il planta la lame dans sa tête et l'attira vers lui. La maintenant avec son pied, il la fendit d'un coup sec, de la base du ventre à la pointe de la mâchoire inférieure. Il posa ensuite son couteau et toujours de sa seule main droite la vida, tripe et ouïe. La panse était lourde et glissante au toucher. Il l'ouvrit, elle contenait deux poissons volants. Ils étaient frais et fermes. Il les posa l'un à côté de l'autre et lança les déchets de la dorade par-dessus bord. Cela s'enfonça en traçant un sillon phosphorescent dans l'eau. La dorade était froide. Étalée là, sous les étoiles, elle paraissait blême et lépreuse. La retenant avec son pied, le vieux lui arracha la peau sur toute une face, après quoi il la retourna et dépeça l'autre face. Enfin, il détacha les filets de la tête à la queue. En jetant l'arête par-dessus bord, il regarda s'il apercevait quelques remous, mais il ne vit rien qu'une lente descente lumineuse. Il se retourna, enveloppa les poissons volants dans les deux morceaux de la dorade, mit le couteau dans sa gaine et lentement remonta jusqu'à l'avant. La ligne tendue sur ses épaules courbait son dos. Il portait son paquet de poissons dans la main droite. Après avoir étalé les morceaux de dorade et les poissons volants sur le petit appontement de la proue, il changea la position de la ligne sur son dos. C'était de nouveau sa main gauche qui, prenant appui sur le rebord, retenait le fil. Il se pencha afin de laver les poissons volants dans la mer et tenta d'évaluer contre sa main la vitesse de l'eau. La peau de la dorade qu'il avait écorchée avait laissé une phosphorescence sur cette main. Il s'amusait à voir les vaguelettes se briser contre elle. La mer était plus calme. Quand il frottait sa paume sur le flanc de la barque, des particules phosphoreuses s'en détachaient et flottaient lentement dans son sillage. « Où il se fatigue, où il se repose, » dit le vieux. « Bon, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'envoyer cette dorade, de me reposer aussi et de roupiller un brin. » Sous les étoiles, dans la nuit qui rafraîchissait de plus en plus, il mangea la moitié d'un filet de dorade, plus un poisson volant au préalable étêté et vidé. « C'est drôle ce que la dorade, ça peut être bon quand c'est cuit, » dit-il, « et ce que ça peut être mauvais quand c'est cru. Je ne remettrai jamais les pieds dans un bateau sans emporter du sel et des citrons. » « Si j'étais pas une vieille bête, » pensa-t-il, « j'aurais arrosé le plat-bord avec de l'eau de mer. En séchant, ça aurait fait du sel. Faut dire que je n'ai attrapé la dorade qu'après le coucher du soleil. Mais de toute façon, je ne pense à rien. Enfin, en mâchant bien comme j'ai fait, ça m'a pas fichu mal au cœur. » Les nuages, s'accumulant à l'est, masquaient l'une après l'autre toutes les étoiles que le vieux connaissait. On eût dit qu'il entrait dans un grand canyon de nuages. Le vent était tombé. « C'est du mauvais temps qui se prépare pour dans 3 ou 4 jours, » dit-il. « Mais c'est pas pour cette nuit, ni pour demain. C'est le moment ou jamais de dormir, mon ami, pendant que le poisson continue son petit bonhomme de chemin. » Il remonta sa cuisse sous sa main droite qui soutenait la ligne et se laissa aller contre l'appontement de l'avant. Puis il fit descendre la corde sur ses épaules et la cala sous sa main gauche. « Tant qu'elle sera appuyée, ma main droite tiendra le coup, » pensa-t-il. « Si elle mollit pendant que je dors, ma main gauche me réveillera au moment où la ligne fichera le camp. Ça sera dur pour cette pauvre main droite. Bon, elle en a déjà vu de rude. Même que je dormirai que 20 minutes ou une demi-heure, ça serait toujours ça de prix. » Il se pencha en avant pour résister de tout son poids au poids de la ligne. Sa force entièrement concentrée dans sa main, il s'endormit. Il ne rêva pas de lion, mais d'une énorme bande de marsouins qui s'étendait sur une 10 miles. C'était la saison des amours, ils sautaient à des hauteurs prodigieuses et retombaient dans l'entonnoir même qu'ils avaient creusé en jaillissant de l'eau. Plus tard, il rêva qu'il était au village. Il était couché dans son lit. Le vent du nord le faisait grelotter et son bras droit était engourdi parce qu'il avait posé sa tête dessus, comme sur un oreiller. Enfin, la grande plage de sable jaune apparut. Le vieux aperçut le premier lion. Il descendait vers la mer dans le crépuscule. Les autres lions ne tardèrent pas. Le menton appuyé sur le rebord de l'avant, il les contemplait. Son navire se balançait sur ses ancres. La brise vespérale soufflait de la côte. Viendrait-il encore d'autres lions ? Le vieux se sentait heureux. La lune était levée depuis longtemps. Mais il dormait toujours, et le poisson continuait à tirer du même élan régulier, entraînant le bateau dans un tunnel de nuages. Un coup de poing en pleine figure le réveilla. La ligne lui arrachait la peau de la main droite. Sa main gauche était insensible. De toute la force de sa main droite, il freina la fuite du fil. Enfin, sa main gauche réussit à trouver la ligne qu'il coinça avec son dos. Ce fut alors son dos et sa main gauche qui subirent la morsure de la corde. La main gauche avait maintenant tout à faire et s'était profondément entaillée. Le vieux coula un regard en arrière vers les paquets de lignes. Ils se déroulaient régulièrement. À cet instant, ouvrant une large brèche dans l'océan, l'espadon sauta puis retomba lourdement. Il fit ensuite une série de bonds qui entraînèrent le bateau à une allure folle, en dépit des longueurs de fil que le vieux ne cessait de donner et de la tension de plus en plus grande qu'il infligeait à la ligne, tirant, tendant, résistant jusqu'à la limite du possible. La lutte l'avait jeté à plat ventre contre le bois de l'appontement. Son nez et sa joue écrasaient les filets de dorade. Il ne pouvait faire un mouvement. « C'est bien ce que nous avons voulu, pas vrai ? » pensa-t-il. « Eh bien, ne nous plaignons pas. » « T'imagines pas que je te fais cadeau de toute cette ligne ?» pensa-t-il. « Tu la paieras. C'est moi qui te le dis. » Il ne voyait pas le poisson sauter. Il entendait seulement le froissement de l'océan, puis le lourd jaillissement de l'eau à chaque retombée. La ligne, dans sa furieuse galopade, lui écorchait cruellement les mains. Mais il ne s'était attendu à rien d'autre. Il essayait de se servir des parties calleuses de ses paumes. Il tâchait que la ligne ne s'enfonçât pas dans le milieu ou entre ses doigts. « Si le gosse était là, il aurait mouillé les paquets de lignes, » pensa-t-il. « Eh oui, si le gosse était là, si le gosse était là. » La ligne filait toujours, filait sans trêve. Cependant, on pouvait noter un certain ralentissement. Le vieux vendait cher à l'espadon chaque centimètre de fil. Enfin, il put relever la tête et dégager son visage de la tranche de dorade où s'était incrustée sa joue. Bientôt, il se mit sur les genoux, puis se redressant peu à peu, se trouva debout sur ses jambes. Il continuait à donner du fil, mais de plus en plus lentement. Il recula jusqu'à tâter du pied les paquets de lignes invisibles. Il restait encore une bonne longueur de corde. Quant à l'espadon, il lui fallait maintenant supporter le poids de cette ligne supplémentaire. « Bon, » pensa le vieux, sans compter qu'il a bien sauté une douzaine de fois et qu'il a rempli d'air les sacs qui sont sous son dos. Il ne pourra pas s'enfoncer et aller crever si loin que je ne puisse le remonter. Il va bientôt se mettre à tourner en rond, et ça va être mon tour de le mener où ça me plaît. Je me demande ce qu'il a piqué comme ça tout d'un coup. Ça serait-il la faim qui l'aurait rendu enragé ou quelque chose qui lui a fait peur dans le noir ? Peut-être bien qu'il a eu la frousse, pourtant, ce poisson-là, il avait l'air calme et costaud. On aurait dit qu'il n'avait jamais peur, qu'il ne doutait de rien. C'est bizarre. Tu ferais bien de ne pas avoir peur ni de perdre la boussole toi-même, bonhomme, dit-il. Tu l'as repris en main, c'est une affaire entendue, mais tu ne peux toujours pas regagner de ligne sur lui. En tout cas, va falloir qu'il commence bientôt à tourner en rond. Le vieux contrôlait l'espadon à la fois de la main gauche et des épaules. Il se pencha pour puiser de l'eau dans sa main droite et laver son visage souillé par la dorade. Il craignait que cette odeur ne le fît vomir et que ses forces en fussent diminuées. Après s'être nettoyé, il laissa tremper un moment sa main dans l'eau salée, guettant l'éclosion de cette lueur qui précède le lever du soleil. « Maintenant, il file plein est, » pensa-t-il. « Ça veut dire qu'il est fatigué et qu'il se laisse porter par le courant. » « Faudra bien qu'il se mette à tourner en rond. Alors, en avant la musique. » Quand il jugea que sa main droite était restée suffisamment dans l'eau, il l'en sortit et l'examina. « Ça peut aller, » dit-il. « Un homme, ça se laisse pas démolir comme ça. » Il saisit la ligne avec précaution, prenant garde à ce qu'elle n'entrât pas dans les coupures fraîches et opéra une révolution sur lui-même, afin de pouvoir tremper sa main gauche dans la mer de l'autre côté de la barque. « Tu t'en es pas trop mal tiré pour une bonne à rien, » dit-il, à la main gauche. « Mais pendant un moment, je savais plus où t'étais. »« Pourquoi donc que j'ai qu'une main de bonne ?» pensa-t-il. « Peut-être que j'ai eu tort de ne pas former celle-là comme il faut. » Pourtant, elle a eu assez d'occasions de s'entraîner, bon sang. Tout de même, elle a été presque à la hauteur cette nuit, et elle n'a eu qu'une crampe. Si elle en a encore une de crampe, je m'en fous. Je laisse la ligne coupée dedans sans me bouger. » Il lui sembla que ses idées s'embrouillaient. Il se dit qu'il devrait manger encore un morceau de dorade. « Mais c'est plus fort que moi, songea-t-il, ça me dégoûte. Vaut mieux se sentir la tête vide que de perdre ses forces en vomissant. Ça pourrait pas descendre. Pensez, quand on a eu la figure collée dessus. Je la garderai en réserve, on ne sait jamais, jusqu'à ce qu'elle se gâte. De toute façon, c'est trop tard. Je n'ai plus le temps de me refaire des forces en mangeant. Imbécile, se dit-il à lui-même, t'as qu'à manger l'autre poisson volant. Le poisson volant était là, tout propre, prêt pour la consommation. Le vieux le saisit de la main gauche et le croqua soigneusement, chair et arête, de la tête à la queue. Il n'y a pas plus nourrissant que ça, comme poisson, pensa-t-il. En tout cas, c'est juste le genre de nourriture qu'il me faut. Bon, ben, je peux rien faire de plus, pensa-t-il. Vivement qu'il se mette à tourner et qu'on se bagarre. Le soleil se levait pour la troisième fois sur le vieux et sur sa barque, lorsque l'espadon commença ses cercles. Ce n'est pas l'inclinaison de la ligne qui pouvait indiquer que le poisson s'était mis à tourner. Il était encore trop tôt. Il n'y eut qu'un petit relâchement dans la tension. Le vieux tira doucement de la main droite. La ligne se raidit de nouveau, comme à toutes les autres tentatives, mais au moment même où elle semblait tendue à se rompre, elle recommença à céder. Le vieux la fit glisser par-dessus ses épaules et sa tête et commença à la ramener sans hâte ni violence. Il se servait de ses deux mains, balançait son corps de gauche à droite et tâchait de faire porter l'effort sur le buste et sur les jambes. Ses vieilles jambes, ses vieilles épaules suivaient docilement le mouvement de balancier qu'il imprimait à ses bras. « C'est un rond qui s'en va chercher au diable, » dit-il, « mais c'est un rond. » La ligne refusa de céder d'un pouce. Le vieux la tenait si serrée que des gouttelettes en jaillissaient dans la lumière. Puis elle se mit à filer. Le vieux s'agenouilla et la laissa à regret s'enfoncer dans l'eau sombre. « Le voilà au bout de son rond maintenant, » dit-il. « Faut que je me cramponne tant que ça peut, » pensa-t-il. « La fatigue l'obligera à raccourcir son rond à chaque fois. Peut-être que d'ici une heure, je le verrai. Pour le moment, faut en venir à bout. Après, je le tue. » Mais le poisson, sans se presser, continua à décrire des cercles. 2 heures plus tard, le vieux était couvert de sueur et là jusqu'à la moelle. Toutefois, les cercles diminuaient progressivement et d'après l'inclinaison de la ligne, on pouvait constater que le poisson se rapprochait constamment de la surface.
On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Le vieil homme et la mer.